Chapitre 6. Journal du prince. Votre lettre, mon cher Valong, m'est revenue de Messine, que je vous avais désignée comme ma première escale, notre voyage autour du monde s'étant trouvé subitement interrompu. L'effet produit par mon absence sur le personnel de Stanislas, l'allocution du directeur au réfectoire, la prière du père Salignon pour le prompt retour du noyé égaré, tout le récit pittoresque et précis que vous me faites des jours qui ont suivi mon départ m'a beaucoup amusé et j'en avais grand besoin, car tout n'est pas rose dans le métier de ravisseur. Pardon encore et merci pour la peine que vous avez prise de rapporter mon baluchon à Grosbourg sous cette pluie battante et aussi pour le très frugal déjeuner qu'on a dû vous servir dans la somptueuse vaisselle plate aux armes de la maison. Ne mentez pas, je connais l'ordinaire lorsque la duchesse est là. En pleine saison des fruits, vous avez dû manger des pruneaux et des mendiants au dessert. Et puis, vous avez eu une duchesse de méchante humeur à qui je venais de faire un nouvel appel de fond. En cette circonstance, le sang du baron Silva bouillonne et crie contre moi. La sombreur de mon père s'explique moins si, comme vous le dites, ses jambes lui reviennent de jour en jour. Il devrait être rayonnant. Quant à maître Jean, mon ancien précepteur, ce mot de cavate qu'il vous a chuchoté en parlant de son élève n'a qu'un lointain rapport avec le tiroir à cravate où j'entasse mes lettres et bibelots d'amour. Il voulait surtout vous faire entendre que je suis un irrésistible leveur de femmes. Le pauvre garçon a pu s'en rendre compte comme assidu témoin de mes amours qu'il accompagnait sur son violoncelle. Oui, le petit clocher en haut de la côte avec quelques maisons serrées tout autour et, dans le fond, le grand rideau vert de la forêt de Sénart, et bien l'église des Uzelles. On l'appelle dans le pays la petite paroisse, et plus pittoresquement, la paroisse du Bon Cocu, à cause du vieux bonhomme qui l'a fait bâtir. Donc l'endroit était privilégié pour mon aventure. C'est là qu'un matin du mois dernier, j'attendais au petit jour ma maîtresse, Madame F., dans un coupé aux armes et à la livrée de Grosbourg, ce qui ne manquait pas de désinvolture, vous en conviendrez. Le délicieux Alexandre avait tout disposé pour notre fuite, fourni l'argent, tracé les itinéraires. Je vous recommande le garçon, il est cher mais incomparable. Gagné Melun par les bois, pris le train jusqu'à Lyon et, après une halte de quelques heures, filé sur Cassis où nous arrivions le lendemain soir. Tout le voyage, un enchantement. Cette jolie fille sautant de son lit dans ma voiture, sans même le temps d'attacher son corsage, nos premières étreintes trempées de menthe et de rosée, l'ivresse de nous croire poursuivis dans cette course folle à travers bois, parmi le craquement des branches, le bruissement des feuilles contre les vitres, par-dessus tout, la joie délicate et sauvage de sentir qu'on échappe à la règle, au devoir, qu'on chasse en terre défendue. Enfin, Cassis, la mer, à la pointe de la jetée, le bleu-blanc-rouge, sa grande voile goélette à mi-mât, n'attendant plus que nous pour ouvrir son aile. Tout cela, oh, tout cela, subrexquis. Mais à peine embarqué, par un divin soir vert et lilas, où mon ami et moi commencions à goûter, je crois bien, le plein de la joie physique, enlacés et couchés sur le pont, bercé par un admirable cœur de voix d'homme qui venait d'un corailleur napolitain tirant la même bordée que nous et mêlant ses sonorités joyeuses au doux ruissellement du sillage, au cliquetis de la flamme en haut du mât. Horrible! Most horrible! Voilà ma bien-aimée prise d'un abominable mal de mer qui ne l'a plus quittée de la nuit ni du lendemain, nous a obligés à relâcher pour un mois, deux mois, peut-être toujours. Comme fiasco, il n'en est pas de plus complet. Je vous ai dit quelle délicieuse compagne de route j'avais choisie entre bien d'autres, aventureuse et voyageuse, passionnée du bateau et de la voile, sachant tenir la barre, larguer une écoute aussi bien que moi, le type de la femme pour navigateur. Va te promener, il faut qu'elle ait le mal de mer. Et quel mal de mer! Effroyable, incurable. Que faire maintenant? Renoncer à mon beau voyage? Renvoyer le bleu-blanc-rouge à Cardiff en laissant aux braves nuits les 1500 livres avancées pour 3 mois de paix? Je ne m'en suis pas senti le courage. Non plus que d'aller nous installer bourgeoisement, la comtesse et moi, comte et comtesse des Uzelles pour les voisins de table d'hôte et les registres de l'hôtel, dans une villa au bord du lac de Lucerne ou de Genève, pour émigrer ensuite aux lacs italiens. La vie à deux dans ces conditions, c'est le suicide par l'ennui, à moins d'être amoureux ou poitrinaire, ce qui n'est pas mon genre. Ni le vôtre, n'est-ce pas, Valongue ? Pour me donner le temps de réfléchir, j'ai remisé mon yacht sous le grand rocher de Monaco et loué le premier étage d'un de ces caravanserrails de Monte-Carlo, pompeusement groupé autour de la maison de jeu. Bien que ce ne soit pas encore la saison, il y a foule aux tables de roulette, foule d'étrangers seulement. Les premiers jours, j'ai gagné la forte somme. Puis j'ai perdu, en sus de mon gain, les 40 ou 50 000 francs qui me restaient. La malchance ayant voulu qu'Alexandre ne fût pas aux uselles pour répondre aussitôt à ma demande d'argent, j'ai été obligé de reprendre au capitaine Nuitz l'avance que je lui avais faite. Vous pouvez vous figurer sa déception, son épouvante. « Et la paix de l'équipage, by God ! Et la pension de Mistress Nuitz !» Pendant 8 jours, j'ai dû supporter ce baragouin avec des variations à mourir de rire par le capitaine, le second, le steward, bonnes figures anglaises, congestionnées, consternées, me poursuivant partout, au bureau de poste, aux tables de jeu, agitant sur les blanches terrasses de l'hôtel, sur la route ombragée de Monaco, les ombres frénétiques et comiques d'une pantomime de Anne Lonely. Enfin, les galions arrivés, Captain Nuit, sa femme et son équipage contents et soldés, je continue à jouer parce que les journées sont longues, mais à l'abri désormais de tout fâcheux emballement. Très désolée d'abord du contretemps dont elle est cause, ma maîtresse s'est vite résignée, grâce aux deux excellents Pleyel et à l'auditoire complaisant de notre caravane-sérail. Ajoutez la joie du confortable, de l'élégance et celle incomparable de s'entendre dire par un maître d'hôtel « Madame la comtesse est servie » en entrant dans la salle à manger au bras de monsieur le comte. Les titres, les blasons, c'est le rêve de cette petite bourgeoise sans parents et qui, dans l'orphelinat où fut accueillie son enfance, a grandi avec l'idée qu'elle était d'origine noble, archinoble. Il est vrai qu'elle ne manque pas de distinction, la taille longue et pliante, l'air facilement insolent, le front étroit, admirablement encadré. Mais de grands pieds et de grandes mains, aussi commodes pour le piano, clavier et pédales, que peu rassurantes sur l'origine. M'aimerait-elle si je n'étais fils de duc, prince moi-même ? J'en doute. Elle est trop jeune pour que mon jeune âge l'ait amorcée, ainsi que telle mûre baronne, amie de ma mère et goulue de chair fraîche. Bien que démentie par ma taille et ma carrure, mes 18 ans la gênent plutôt, et aussi la candeur, l'ingénuité qu'elle me suppose. Pauvre fille ! Il reste encore des femmes sentimentales. Ma maîtresse est de celles qui vous disent « Viens pleurer sur mon épaule ». Et à ce propos, mon cher Wilkie, que je vous raconte, cela vous servira à l'occasion. Comment j'ai pu vaincre ces toutes dernières résistances ? Nous étions seuls, le soir, dans une resserre au fond de son parc. Ce qu'il m'avait fallu d'astuces pour l'amener là. Rien de plus, par exemple. Prière, lamentation, ne m'avançait pas de ça. Pour achever de me rendre ridicule, on l'est si aisément en un pareil débat, une poussière m'entre dans les cils. Je me frotte avec énergie, tout en poursuivant mon attaque. Mes yeux rougissent, sont en larmes, et brusquement, je la sens qui s'abandonne. « Tu pleures, tu doutes que je t'aime. Oh non, ne pleure plus, ne doute plus. Prends-moi. » Et la méprise dure encore. Elle me croit très amoureux, sans m'aimer beaucoup elle-même. N'est-ce pas une chose curieuse qu'elle se soit lancée dans une telle aventure, avec si peu de combustible passionnel ? Est-il vrai, comme elle l'affirme, que ça l'ennuyait de mentir ? Ce n'est pourtant pas ennuyeux, et dans ce duel de l'homme et de la femme, l'arme de la faiblesse, l'arme enfantine et féminine, le joli mensonge, délicat et pervers, ciselé par de petites mains artistes, me paraît du jeu le plus agréable. Non, le mensonge ne l'ennuyait pas. Elle s'ennuyait tout simplement. Victime de la vie monotone et désœuvrée, elle a préféré se livrer à tous les caprices de mes 18 ans, à tous les dangers d'une montgolfière à feu de paille. Qu'espère-t-elle ? En admettant qu'elle parvienne à divorcer, j'ai, moi, pour ne pas l'épouser, 1000 prétextes d'âge et de situation. D'ailleurs, il n'est pas question de divorce pour elle. Son mari, M. F., qu'on supposait un gros indifférent, Alexandre m'apprend qu'il crève de malrage et pourrait nous fondre sus un de ces matins. Mais cette jalousie de Marie me semble moins redoutable que celle de mon père, le général. Oui, mon cher Valongue, mon père jaloux de moi, amoureux fou de ma maîtresse, qui, très au fond du cœur, garde un sentiment plus vif au héros de Wissembourg qu'à son innocent de fils. Ce sentiment, la pitié l'a-t-elle fait naître, ou existait-il avant la maladie du général? Je l'ignore, mais des mois, je les ai vus, elle au piano, lui dans son fauteuil d'infirme, échanger des regards plus signifiants que des paroles, et j'ai senti souvent qu'avec une roucouleuse de son genre, ce blessé, gavé d'ans et de gloire, était un rival dangereux. Le vieux, lui, me devinait, il se méfiait de la cavate, convaincu que je finirais toujours par triompher à cause de mes jambes et de tout ce qui lui manquait. Ah, que j'ai dû le rendre malheureux, surtout quand elle venait passer l'après-midi à Grosbourg et que je l'emmenais par toute la maison et le jardin. Imaginez Don Juan cul de jatte. Le malin des malins, celui à qui on ne la fait pas, comme il dit, et qui, lui, l'a faite à tout le monde. Figurez-vous cet homme vissé dans un fauteuil, réduit à guetter de loin, derrière une vitre, à se dire tout le temps « Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font ?» Soupçonneux, rongé, se traînant sur ses pilons pour venir écouter aux portes, lâche, furibond, en larmes. C'était mon père, cet homme-là. Comme je comprends que, pour finir cette torture, l'idée lui soit venue de m'enfermer à Stanislas. À quoi j'ai répondu du tac au tac par la double escampette du jeune homme et de l'amoureuse. Maintenant, il pourrait très bien se faire, surtout après le faux départ du bleu-blanc-rouge qui nous a laissés sous sa coupe, que mon père abusa de ma minorité pour me réintégrer à Grosbourg et même à Stanislas. Non, ce serait trop drôle que je rentre en préparatoire. Avec ma maîtresse, alors, la tunique lui irait si bien. Et voilà un dénouement qu'elle n'a certes pas prévu. Songe-t-elle à quelque chose, du reste? Il me serait difficile de le savoir. Et c'est vraiment bien extraordinaire, cette fermeture, cette impénétrabilité de deux êtres qui vivent l'un contre l'autre, s'endorment sous la même moustiquaire. Parfois, je pense aux cris d'horreur qu'elle pousserait si elle entrait dans moi subitement. Ce moi tellement obscur et trouble que je m'y perds, que j'y ai peur, si elle l'habitait tout à coup, quelle épouvante! Si seulement elle ouvrait cette lettre. Ce serait pour tuer le peu d'amour qu'elle peut avoir, à moins que tout le contraire arrivât. Quelle est donc cette duchesse du grand siècle qui prétendait que pour aimer un homme en plein, la femme devait le mépriser un peu? Voyez-vous que, las de ma maîtresse, et pour la dégoûter de moi, me montrant telle que je suis, je change en passion son amourette. Non, mieux vaut laisser faire la destinée et Notre-Dame de Fourvière en qui la charmante fille a la plus aveugle confiance. À ce point que, partie de chez elle presque nue, elle a voulu, en arrivant à Lyon, même avant de s'acheter une chemise, monter en pèlerinage à Fourvière et s'y munir de scapulaires et de chapelets bénis. Je ne l'en ai pas détourné. C'est si joli le cliquetis des médailles sur une gorge blonde. C'est si bon le plaisir qui devient un péché, la volupté savourée dans le remords et dans la peur. Parmi les étrangers plus ou moins hybrides qui, dans cette saison, habitent notre hôtel ou viennent seulement y manger, nous nous sommes liés avec un jeune ménage, les Nansen. Le mari, suédois, professeur dans une faculté quelconque de son pays, ayant eu la poitrine malade, s'était fait donner une mission dans le midi de l'Italie. Il en revient, marié depuis 8 mois, avec une très jolie fille d'un hôtelier de Palerme. Lune de miel passionnée, attelage nord et midi d'un amusant contraste. L'homme, un roux à lunettes, doux, rachitique, les épaules en ailes cassées, des yeux du nord fins et pâles. Quelqu'un a dit, en montant vers le nord, les yeux s'affinent et s'éteignent. Tels ne sont pas les beaux yeux myopes de Nina, Madame Nansen, deux grains de raisin noir, tentants et luisants, dans cette splendide chair italienne. La femme, un peu ronde, mais si vraiment jeune et naturelle, se frôlant à son mari avec un rire de maîtresse aimée, des frissons de plantes roses qui se dressent et s'épanouissent au soleil. Notre présence à l'hôtel, où ils venaient prendre leur repas d'une villa voisine, dérangea l'harmonie du ménage. Les jolies toilettes de ma parisienne, sa réserve hautaine, impressionnaient visiblement M. Nansen, qui trouvait tout à coup à sa Nina des corsages criards et l'air commun. Mais le pauvre garçon était bien trop timide pour me laisser espérer qu'il prendrait jamais la relève de mon quart, quelle que fût son envie et peut-être la mienne. De quoi est faite cette timidité, si fréquente parmi nous et que la femme ignore? Je vous ai parlé de M. Poum Poum. Nansen, comme timide, me fait penser à lui. Un de ces êtres qui trébuchent dès qu'on les regarde marcher, qui font effort pour pousser la porte d'un magasin et, dans la rue, rasent les murs, voudraient les trouer et disparaître. Poum Poum, dont j'ai eu toutes les confidences, me parlait d'un de ses amis qui se grisait pour oser être tendre avec sa femme, et j'ai toujours pensé que c'était lui-même cet ami. Mon Danois est de cette force. Un soir, au salon, il jouait une valse lente de Brahms en regardant ma maîtresse comme en extase. J'étais près de lui, je lui dis tout bas « Prenez garde, Nansen, ça se voit !» Au lieu de me demander ce qui se voyait, il devint très rouge et laissa tomber ses lunettes sur les touches. Quand je la taquinai à propos de son muet amoureux, Lydie me répondait en souriant « Mais il me semble que la femme ne vous déplaît pas non plus. » Et, de vrai, cette petite Nina m'amorçait par son double attrait mystérieux de femme et d'étrangère. En plus, très éprise de son mari, excitante. Ma maîtresse l'a-t-elle compris? Est-ce la peur d'un de mes caprices qui l'a décidé à quitter Monte-Carlo brusquement? Mais un matin, il y a 8 jours, à l'heure où le capitaine Nuit vient flegmatiquement aux ordres, elle se déclara prête à reprendre la mer, malgré l'avis des médecins. On convint de relâcher à Gênes et, dans le cas où ce court voyage ne la fatiguerait pas, de continuer sur Malte et la suite. « Si nous emmenions les Nansen jusqu'à Gênes, » proposai-je d'un ton négligent. Après avoir cherché ma pensée jusqu'au fond de mes yeux, ce qui n'est pas commode, elle décida, très fière comme toujours, « Emmenons les Nansen. » À 2 heures, le jour même, le bleu-blanc-rouge sortait de Monaco, toute sa toile au vent. Mais avant le soir, au large de Vintimille, nous attrapions le plus joli coup de foutreau. Grêle, tonnerre, tramontane, la mer démontée, et Madame F. écroulée sur son lit, sans la force d'un mouvement, d'une plainte agonisante. À côté, dans le salon traversé d'éclairs, Nansen vomissait à pleine cuvette, sans plus songer à l'amour. Nous aurions pu, sa femme et moi, nous rouler sur les divans, nous embrasser devant lui, qu'il n'eût pas trouvé la force de faire un geste. Mais la pauvre Ninette était bien loin de ses idées. Folle de peur, elle passa toute la soirée agenouillée, cramponnée au fauteuil de son époux, et chaque fois qu'un éclair illuminait les hublots, c'était d'éperdu signe de croix, des litanies criées, sanglotées « Sainte Barbe, Sainte Hélène, Sainte Marie-Madeleine !» Pour flirter dans ces conditions, il m'eût fallu l'âme romantique et blasphématoire d'un personnage de Gênes su. Le lendemain, complication nouvelle. Nansen se trouvait pris d'une hémoptysie violente, conséquence de ses malaises. Et la pharmacie du bord manquant de perchlorure, nous dûmes atterrir à San Remo pour le prompt soulagement de nos malades. Dès le soir, pendant que le bleu-blanc-rouge tirait des bordées sans fin pour venir reprendre sa place à côté du yacht de son Altesse, au pied du rocher de Monaco, nous rentrions tous à Monte-Carlo par la corniche. À l'hôtel m'attendait une lettre de mon père, martial appel de Clairon à l'honneur, à la patrie. « Depuis 100 ans, toujours nous avons eu un d'Auvergne sous les drapeaux et en belle place. Si demain la guerre éclatait, si la France avait besoin de ses fils, qui marcherait chez nous ?» 4 pages de ce lyrisme pour m'engager en définitive à lâcher ma maîtresse et à entrer à Saint-Cyr. Vous pensez si toute cette claironnée m'a laissé froid? La guerre m'ennuie, je la trouve bête et sale. Des 2 façons d'envisager un champ de bataille, la verticale, celle du cavalier, le sabre au clair, droit sur l'étrier, un coup d'eau-de-vie dans la tête, et l'horizontale, celle du blessé qui se traîne, le ventre ouvert, dans l'ordure et le sang, je n'ai jamais pu m'imaginer que la dernière, qui m'a dégoûté, sinon effrayé. Le lendemain de Wissembourg, mon père disait en parlant du combat, « Il y avait de la viande. » Ainsi m'apparaît la guerre tout en viande abattue et charretée, non pas en belle chair sur pied, étincelante et vivante. Je ne suis pourtant pas lâche. L'autre nuit, si vous m'aviez vu tremper le nez dans le vinaigre avec la solide équipe du bleu-blanc-rouge, je ne le rendrais pas. Non, j'aurai mes moments comme tout le monde. Seulement, le carnage me fait horreur. En plus, les mots « patrie »,« drapeau »,« famille » n'éveillent en moi que des échos hypocrites du vent, du son. Vous êtes pareil, mon cher Valongue, avec cette variante que chez vous, tout vient de l'étude, de la réflexion. Votre cerveau, comme celui de tant jeunes Français, est une conquête de la philosophie allemande, conquête autrement sérieuse que celle de l'Alsace et même de la Lorraine. Kant, Hartmann, surtout l'autre, le fameux, vous savez qui je veux dire, ont démonté devant vous le décor de la vie pièce à pièce. L'érudition du sentiment et de la sensation a détruit en vous la faculté de sentir. Mais moi, moi qui ne sais rien, moi qui n'ai rien lu ni appris, comment suis-je au même point de lassitude et de décrépitude morale? Pourquoi suis-je déjà desséché, ravagé à 18 ans à peine? D'où me vient ce mépris de tout devoir, de toute tâche, cette révolte contre n'importe quelle loi? Mon nom, ma fortune, ma jeunesse et une âme d'anarchiste. Pourquoi ça? Vous, à qui je dis tout, qui me savez à fond, Valongue, tâchez donc de m'expliquer à moi-même. M'appréciez-vous simplement, votre lettre semble me le dire, comme un produit de la nouvelle école, un échantillon du tout dernier bateau? Nos aînés alors seront surpris. Ceux qui s'en vont et ceux qui viennent ne se ressemblent guère, je le sais. Mais cette fois, si j'en juge par mon père et moi, les ponts sont bien rompus entre les deux générations et, d'une rive à l'autre, l'incompréhension pourrait s'exagérer jusqu'à la haine. Il est certain que j'ai lu à ma façon la lettre du général, n'y voyant que son retour à la vie et le désir de ravoir sa chère Madame F., par qui, je dois l'avouer, ses frais d'éloquence militaire ont été mieux goûtés que par son fils. Ma sentimentale amie en avait les yeux tout embués. Depuis quelque temps, du reste, ses accès de sensibilité sont fréquents chez elle, même inquiétants. C'est cela qui en serait une aventure. Ici, pourtant, ses larmes venaient d'une source toute morale. Je la sentais bouleversée, prête au plus grand sacrifice. Ah, le vieux Lascar, sa lettre n'était pas tant pour moi que pour celle qui la lirait par-dessus mon épaule en pensant à lui. Et je prévois maintenant une démonstration paternelle encore plus vive. Parions qu'il va venir en personne nous jouer une bonne scène de mélo pour décrocher du même coup sa maîtresse et son garçon, deux timbales au lieu d'une. S'il croit que je l'attendrai, d'abord la roulette ne m'amuse plus, encore une sensation tombée dans le gouffre. Elle ne valait pas l'ennui de cuire dans ce paysage d'Afrique, aveuglé de soleil et de poussière chaude, assourdi par cette crécelle des cigales qui semble le bruit monotone de la lumière. Le mieux serait de repartir sur mon yacht, en confiant Lydie à des amis qui me la ramèneraient par terre dans quelque coin perdu de Bretagne ou d'Italie. Mais qui? C'est fini, les Nansen. J'oubliais de vous dire que le malheureux Suédois fut emporté par une phtisie galopante le lendemain de notre rentrée. À propos, monsieur le philosophe, que je vous soumette, comme à mon confesseur, un cas passionnel et mystérieux, presque indisable. Voilà donc le Suédois Ad Patres. Pendant 2 jours, nous avons vécu dans cette mort, ma maîtresse passant des heures près de la veuve désespérée, moi et mon brave Nuit, dont je mets la sinécure à toute sauce, occupé du triple cercueil en chêne, plomb et sapin, pour amener le défunt dans son pays, et aussi des questions de transport, de transit. On en mangeait littéralement de ce Suédois. Sa cendre se mêlait à nos aliments, s'insinuait dans notre sommeil. Le 3e jour, hier matin, la comtesse me dit « Vous devriez aller voir Nina. Vous venez d'être tout à fait bon et complaisant pour elle. Elle voudrait vous remercier. » Rien de plus banal que cette visite. Pourquoi étais-je ému, si passionnément ému, en entrant dans le petit jardin de la Villa Nansen, au creux d'un ravin mauve, à 10 minutes de la mer? Était-ce le sirocco, l'haleine des lauriers roses? Je me sentais la bouche sèche, les mains brûlantes, et tout mon être engourdi d'un vertige sensuel qui ne m'empêchait pas de songer à la mort. Comment n'y pas songer, du reste? Maîtresse du logis, elle le remplissait du désordre et de l'effarement qu'est la porte. Ses fenêtres, au premier, largement ouvertes, cette autre hermétiquement close, où s'entrevoyait la lugubre lueur jaune des cierges au plein jour, et partout, jusqu'au fond des jardins, jusque sous les lauriers, l'horrible odeur de mixture et de sciure de bois qu'exhalent les couches mortuaires. J'attendis 5 minutes dans un parloir, au rez-de-chaussée, assis sur un canapé de paille. Des pas dans l'escalier. Nina. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que rien n'existait entre cette femme et moi. La veille de son malheur, nous avions ri et joué ensemble tout le soir sur la terrasse de l'hôtel. Un flirt gai. Mais mon désir avait beau l'amuser, elle s'occupait surtout à surveiller son mari, assis au piano avec ma maîtresse, devant une sonate à quatre mains. Je ne l'avais plus revue. Dites-moi pourquoi j'étais sûre de ce qui allait arriver. Elle entra très pâle, vêtue en hâte d'une robe noire collant à sa taille libre et souple. On sentait sa belle chair mate d'italienne là-dessous. Ses yeux luisaient entre ses paupières rougies, boursouflées. Elle se jeta près de moi sans une parole. Nos mains se frôlèrent et le feu prit. « Ah, monsieur Charlet !» Je lus tout de suite contre ma poitrine, sur ma bouche, épuisée de ses nuits de veille, offerte, éperdue, pâmée dans un lent baiser de fièvre qui sentait l'oubigan et le phénol. Juste à ce moment, sa propriétaire entrait demander une paire de draps et m'extirper d'entre les dents une occasion qui ne reviendrait plus. « Tout de même, mon philosophe, que pensez-vous de ceci ? Par quelle détente diabolique cette femme s'est-elle arrachée de ce mort qu'elle aimait, qu'elle pleurait, pour tomber inconsciente dans mes bras ? Serait-ce qu'un souffle aphrodisiaque voltige autour des cercueils ? Ou simplement la vie reprend-elle sa revanche dans une poussée véhémente et immédiate ? J'ai la conviction que les médecins en savent plus qu'ils ne disent sur ces instants de désordre et de perversion dont ils doivent souvent profiter. Moi-même, une autre fois, en des circonstances encore plus terribles, j'avais subi la mystérieuse influence. L'amour et la mort va longue. Je comptais ne vous envoyer mon journal que lorsque j'aurai pris une décision et fixé notre nouveau séjour, mais nous voici en pleine péripétie. Ce n'est pas mon père qui vient d'arriver, c'est Othello. Ce matin, entre dans notre chambre, pimpant toujours, mais le visage à l'envers, Monsieur Alexandre, qui, depuis mon départ, moucharde pour le compte de ma famille le mari de Madame F, et a fait le voyage en exprès avec lui. Heureusement, ce farouche mari explore à Monaco où il nous croit, ce qui nous laisse le temps d'une résolution. À bientôt d'autres nouvelles. L'affaire ne manque pas de gravité, mais je me tâte, le pouls est bon. Charles Exis.